Bonjour le Book Club, bonjour Sophie Divry. J'ai lu votre livre que j'ai adoré, j'ai aimé beaucoup de choses, donc notamment le mélange de genres, la psychologie des personnages et surtout en fait la découverte de la recherche scientifique. Ce sont des sujets vraiment très pointus. Il faut être aguerri quand même, je trouve, pour pouvoir en parler.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Le doux bruit de la présence humaine, ce sont les derniers mots du roman qui nous occupe aujourd'hui et c'est une oreille de chat qui en parle. Le chat mélange le rire d'un homme, le ronron d'un frigo, le cliquetis des couverts, la rumeur de la circulation, la voix d'une femme et pourtant c'est bien le doux bruit de la présence humaine qui est irremplaçable, on aura beau inventer des drogues et des machines. C'est un thriller, c'est une enquête, c'est surtout une fantastique histoire d'amour qui se dévoile à bas bruit. Sophie Divry, son autrice, est notre invitée pour en parler. Vers 15h50, comme chaque matin, mardi, nous retrouvons Lou Quevauvillier au carrefour des enjeux numériques et littéraires. Lou a participé à un atelier Wikisource dans une librairie et donc elle vient nous raconter. Et en fin d'émission, on cherche toujours de la musique dans les textes et nous en trouvons grâce à vous et au grand jeu des pages musicales. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bonjour Sophie Divry.
Bonjour.
Fantastique histoire d'amour, sans point d'interrogation, en vrai. C'est le roman qui paraît aux éditions du Seuil en cette rentrée littéraire de janvier. Bienvenue à vous dans le Book Club. Ici, tout commence par un questionnaire de lecture. On aime bien, voilà, ouvrir la conversation en passant d'abord par un portrait en tant que vous êtes d'abord des lecteurs et des lectrices. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, comment, avec qui, dans quel paysage vous avez appris à lire Sophie Divry?
Je crois que j'ai appris à lire à l'école publique, sans aucun doute.
C'était bien ?
C'était bien. Oui, c'était bien. Je pouvais faire enfin comme les grands, je pense. Après, j'ai un peu du mal à me rappeler de choses vraiment précises, à part le béaba dans les premiers bouquins, en CP.
Est-ce que vous avez l'impression qu'ensuite, les livres font très vite partie de votre vie d'enfant ? Est-ce que vous aimez très vite en lire tout seul, toute seule ?
Je ne sais pas. Une des scènes dont je me rappelle, c'est qu'on allait à la bibliothèque municipale, dans le coin, qui n'avait pas un charme particulier d'ailleurs, mais que j'allais au rayon des oui-oui. Donc je pense que j'avais développé assez vite l'envie de lire un nouveau oui-oui. Donc ça, je pense, c'est vraiment mes premiers souvenirs de lecture qui sont associés à la bibliothèque. Même s'il y avait des livres, évidemment, chez moi, je dis évidemment parce que ma mère a travaillé comme professeure de français dans un collège public.
Mais décidément, vive les bibliothèques publiques, l'enseignement public et l'école publique, Sophie Divry. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se précise dans votre rapport au livre et à la lecture, peut-être en avançant en âge, en rejoignant l'adolescence? Si vous deviez comme ça décrire quelques étapes, ce serait quoi?
C'est vrai qu'à l'adolescence, j'ai beaucoup lu. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on se rappelle... j'ai l'impression que les livres qu'on a lus marquent le temps. Et en même temps, on lirait plus. Enfin, maintenant, je pourrais plus lire ce que je lisais avant. Enfin, j'ai eu toute une période de présence du futur, parce qu'il y a des livres de science-fiction, Hommes sans série, chez mes parents, ou Jack London. J'ai beaucoup lu Jack London, mais c'est un peu...
Derrière vous.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est marrant. Ce que je veux dire, c'est que quand on se rappelle de ces livres-là, en fait, on se rappelle moins de ces livres que l'époque où on les lisait, entre Gide. Mais c'est comme un peu une histoire d'engendrement. En fait, chaque bouquin nous amène quelque part. Donc, je sais que Van Oui-Oui m'a amené à Roald Dahl. Roald Dahl m'a amené à la comtesse de Ségur, peut-être. Après, je sais pas, les contes de Perrault. Puis Jack London. C'est un peu comme dans... Pour ceux qui ont un peu de culture biblique, hein. Je ne sais plus qu'on sait sur la généalogie de Jésus, c'est Mars Kamalek engendra Abraham, qui engendra Joseph, qui engendra... Et là, c'est un peu, ça perd un peu ça.
Ça marche toujours comme ça, vous, la lecture? Vous avez l'impression qu'un livre en engendre un autre ou vous rend curieuse d'un autre?
Oui, ça peut faire ça, c'est-à-dire Tolstoï engendra Dostoïevski, engendra Tourguenieff, engendra Flaubert, engendra Maupassant, Engendra Zola, Zola engendra Camus, Camus engendra Sartre, Sartre engendra Nathalie Sarraute, engendra Georges Perec engendra Claude Simon.
Mais dans une dynamique d'histoire littéraire
dans, dans la Bible, ça dure beaucoup plus longtemps, c'est drôle. Je voulais la faire. Ok, c'est drôle.
Allez-y.
Non, mais ce qui est Claude Simon engendra Virginia Woolf, Virginia Woolf engendra Annie Ernaux engendra Christelle Wolff engendra Marlène Haushofer engendra Clarisse Spector engendra Raymond Federman. Mais à cette époque-là, là, j'étais déjà en train d'écrire. Je pense qu'il y a aussi les livres qu'on a lus avant de devenir écrivain et les livres qu'on lit quand on a commencé à écrire.
Parce que j'adore votre généalogie de lecture. Parce qu'elle se fait pas tant sur d'un point de vue... Enfin, ça pourrait se défendre d'ailleurs d'un point de vue de l'histoire littéraire que vraiment d'un point de vue de l'histoire de la lecture. Vraiment, quand je vous entends, là, il y a des espèces de bascules qui sont votre chemin... Dans les livres.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, il y a des espèces de chaînes comme ça, mais qui sont presque de l'ordre de l'inconscient. De chaque auteur nous amène quelque part, et à partir de là, on ouvre une autre boîte. Mmh. Mais après, pour le refaire, remettre les matrioshkas à l'intérieur, c'est plus difficile. On ne sait plus comment on est arrivé là.
Je vous ai coupé. Vous disiez qu'il y avait un avant et un après l'écriture.
Ben oui, parce que quand on lit à l'adolescence, moi, j'ai énormément lu. Vraiment énormément lu, mais d'ailleurs on lit quand même pour s'évader, pour être tout seul, je sais pas, pour plein de raisons. On lit sans doute pour autant de raisons diverses et variées que pour lesquelles on écrit. Mais après on perd une sorte de naïveté aussi à partir du moment où on écrit, parce que quand on écrit, ben on regarde comment c'est fait, on se rend compte aussi que c'est fait d'une certaine manière. Par contre, on lit quand on est gamin, on a l'impression que les livres, ils naissent dans les choux, limite. Et je ne sais pas à quel âge j'ai appris qu'il y avait un métier qui s'appelle éditeur, mais c'est vrai que tout ça, ça reste très abstrait quand on est enfant.
Et le métier qui s'appelle autrice et auteur, vous en aviez tout de suite conscience? Vous avez tout de suite conscience qu'il existait des gens qui les écrivent, ces livres qui naissent dans les choux?
J'ai dû en prendre vraiment conscience, je pense, au collège, quand il y avait quelques festivals littéraires autour de moi à Montpellier, où il y avait des gens
vivants.
Oui, c'est ça, mais n'empêche que un livre vraiment réussi, je trouve toujours l'impression que la phrase devait être écrite comme ça, que les choses ne pouvaient être écrites comme ça et que quelque chose de plus écrit cette fatalité de la phrase. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais
parfaitement. Aujourd'hui, si vous deviez dire, je sais pas, vous avez parlé de cube, de matrioshka, de territoire, est-ce que vous en avez un en vue? Est-ce que vous avez envie, je vais y arriver, de vous diriger vers un certain territoire, certains auteurs?
Alors, moi je sais que je ne fais jamais de livres pareils, donc je ne sais jamais trop quel territoire, vers quel territoire je vais aller, mais en effet, je pense que je suis très... très en mode randonnée quand même. Enfin, dans le sens, je continue à marcher et à aller là. Par exemple, j'ai lu deux immenses romans, un qui s'appelle Solénoïde de Mircea Cătărescu, qui est sorti il y a deux ans, un auteur roumain. Bon, Solénoïde, bon, c'est vraiment un immense bouquin. Je pense que d'une certaine manière, enfin, c'est à la fois un bouquin de fiction où il y a une maison qui tourne sur elle-même, ça se passe à Bucarest, sous Ceausescu, et à la fois c'est un livre sur l'enfermement en soi, et est-ce que la littérature peut nous faire évader, donc sur l'évasion. Donc à partir de là, il y a des livres aussi moi je prends la force de la fiction, donc qui nous pousse aussi à aller encore plus loin dans l'imaginaire, dans la fiction, dans le fait de faire des projets ambitieux en termes narratifs.
C'est des livres qui vous donnent de l'élan, Sophie Divry, pour écrire.
Oui, alors il y a quand même un petit problème aussi depuis qu'on écrit, quand on lit, c'est qu'il y a un petit côté, mon Dieu, c'est tellement bien, je ferai jamais aussi bien, à quoi bon, quoi. Mais ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui écrivent, comprennent ce que je veux dire, c'est que il y a des livres qui écrasent un peu, voilà. Enfin, il faut prendre
s'éloigner un peu.
Oui, voilà, il faut rester. Mais ça, c'est en général la littérature française, la littérature en France, je veux dire, vu l'héritage qu'on en a, c'est quelque chose d'un peu écrasant. Dans le sens, c'est pas un mépris hein, du tout, parce que je respecte et j'admire beaucoup ces deux arts, mais quand on fait de la BD ou de la photographie, on est un peu moins écrasé par les siècles et les siècles de d'art en photographie ou en bande dessinée. Et donc, il y a quelque chose de plus souple dans la manière dont on peut penser sa contribution à ces arts qui sont encore jeunes. La littérature est un art quand même assez vieux et assez...
Avec pas mal de monde.
Voilà, donc un gros surmoi quand même quand on commence en littérature.
Est-ce que vous offrez volontiers des livres, Sophie Divry ?
Oui, je pense, mais ça c'est plus, je pense, une habitude d'ordre sociologique. Hein. Moi, je pense, j'ai très peur quand on m'offre un bouquin.
Mais vous le faites volontiers ?
Oui, bien sûr. Ouais.
Souvent ?
Oui, surtout quand je suis en train de lire un livre que j'adore, j'ai tendance à vouloir l'offrir à tout le monde.
C'est quoi la dernière fois, par exemple ?
Non, là, par exemple, j'aimerais offrir à tout le monde le bouquin que je suis en train de lire, qui s'appelle Freedom, de Jonathan Franzen. Ou La chance que tu as, de Denis Michaelis, son premier roman. Il y a des bouquins, je pense, que tout le monde peut aimer et qui sont formidables, et puis qu'il faudrait, en effet, mettre dans la main de tout le monde.
On va en parler tout à l'heure en parlant de votre roman. Il est question d'amour de plein de façons différentes. Est-ce que vous avez un souvenir d'avoir appris quelque chose sur l'amour dans un livre ?
Dans un livre ?
Ouais.
Ah, dans un livre, non, je crois pas. Mm. Même si je crois qu'en fait, on apprend à être amoureux en lisant des livres. Mais là, comme ça, je pense que savoir qu'est-ce qu'on apprend en lisant des livres, c'est quand même assez compliqué, sauf les essais. Sinon, ce que laisse en nous intellectuellement les
fictions... Oui, plutôt des romans, ouais.
C'est plus difficile hein, de mettre le doigt dessus. À part qu'il ne faut pas épouser Charles Bovary.
Franchement. J'espère que tout le monde s'en gardera. Très, très mauvaise idée. Est-ce qu'il y a une photo de vous en train de lire ? Tout âge confondu.
Oui, sans doute.
Vous avez quelle tête ?
Vous en saurez pas plus, parce que c'est une photo de famille. Je vais pas vous parler de mes photos de famille. Mais oui, je lis. Mais alors, ce qui est marrant, en effet, que je me rappelle, c'est que du coup, à ce moment-là, je lisais Les Faux Monnayeurs d'André Gide. Mais j'ai à peu près tout oublié du bouquin. Moi, je me rappelle bien du moment, dans mon adolescence, où je lisais ça.
On va parler de votre roman à vous, Sophie Divry, juste après cette chanson d'un groupe breton de Vannes qui s'appelle Fuzeta. Apparemment, ils reviennent.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Voilà comment nous vivons tous. Quelque chose cogne à la porte durant des années, mais nous ignorons ce qui cogne. Cette angoisse que je porte en moi, je la vois partout en ville. Sur ces bâches publicitaires où une jeune fille béate lape un yaourt vanille, dans ces dojos où s'étirent les femmes en âge de cancer, dans ces salles de sport où se réfugient les cadres, jusque dans cette matière, dans cette manière de saisir notre téléphone pour pallier l'absence la plus brève, n'est-ce pas la preuve de l'angoisse dans laquelle nous vivons tous ? Je ne suis pas plus malin qu'un autre, personne en avançant en âge ne peut en être exempt, et comment sans drogue pourrais-je m'en prémunir ? On peut dire que c'est la voix de Bastien, l'un des deux personnages principaux de votre roman fantastique Histoire d'amour, Sophie Divry, paru aux éditions du Seuil en cette rentrée littéraire, roman dont la structure serait l'alternance presque stricte de deux versions de la même histoire, celle de Bastien donc et celle de Maya. Si le titre annonce clairement l'amour, il faut cependant l'attendre un peu tant vos personnages sont pris dans d'autres filets. Bastien est inspecteur du travail et enquête sur une sale affaire, Maya est journaliste scientifique, bientôt mêlée elle aussi à une sacrée affaire puisque les inventeurs d'un cristal scintillant sont dépassés par ses propriétés atrocement addictives. Défense, perte et dépendance sont trois mots essentiels à ce roman touffu qu'on lit à toute allure. On continue d'en parler avec vous. Sophie Divry, vous avez dit dans le questionnaire lecture que vous croyez très fort dans la fiction. Est-ce que ça veut dire que vous croyez vous aussi très fort dans ce que c'est qu'un personnage ?
Ça, je sais pas, parce qu'en d'habitude, je suis pas très personnage. Là, c'est la première fois où c'est vraiment le personnage de Bastien m'est arrivé avec une voix, donc un ton. Donc, du coup, pour écrire, c'était assez générateur et c'est bien. Mais sinon, je suis pas trop le style, mon personnage m'a échappé, tout ça. Et à part pour ce bouquin,
Parce que là, c'est clairement deux personnages.
Oui, oui, tout à fait. Oui, bah après, quand on a envie de faire écrire une histoire d'amour, les deux personnages en question sont très importants. D'ailleurs, j'ai dû refaire plusieurs fois le personnage de Maya, parce que je trouve qu'ils n'allaient pas du tout ensemble, pour que ça colle un petit peu, quoi. Voilà. Mais sinon, moi, d'habitude, c'est plutôt les lieux qui sont générateurs de mes fictions, ou les ambiances mentales... voire des fois même une sorte de message moral final, ou en tout cas d'effet que je veux provoquer chez le lecteur.
Alors c'est fait de quoi un personnage ? Comment on construit Bastien et comment on construit Maya ?
Il y a des règles de caractérisation d'un personnage, hein, pour parler de choses très, très basiques.
Que vous suivez ? Vous y tenez ?
Là, pour le coup, oui, parce que alors, quand j'ai essayé de construire un personnage, ma dernière fiction, c'était un robot, le personnage principal, donc Curiosity, le robot qui était sur Mars, et j'ai eu un peu de mal à trouver la manière de l'écrire. Et du coup, j'ai relu des choses de caractérisation de personnages pour m'aider. Parce qu'en fait, un non-humain, c'est quand même plus difficile. Donc, du coup, grâce à ce travail, après, j'ai pu bénéficier un tout petit peu, même si on n'accumule pas énormément de progrès, je trouve, dans le travail, dans l'écriture. Je suis pas sûre qu'on écrive plus facilement son septième roman que le reste. Mais du coup, par exemple, Maya, j'ai dû changer plusieurs fois son prénom, deux, trois fois son métier. Au début, elle était peintre. Après, et puis finalement, voilà, je lui ai trouvé un caractère, une famille, enfin, une non-famille plutôt. Et puis, pour Bastien, c'était plus simple. Après, ce que là où j'ai hésité, par exemple, c'est de le mettre catholique ou pas. Ça, c'est un choix vraiment. Est-ce que je lui rajoute une religion, ce qui est plutôt pas très sexy en France et tout. Mais après, je pense qu'un personnage, ça marche s'il est bien, bien chargé.
Enfin, il est bien chargé, Bastien. Parce que,
et qu'il prend pas mal de coups aussi. Il faut qu'il prenne pas mal de coups. Les deux personnages, assez vite, qu'il leur arrive très vite des mouises. Mais ça marche à tous les coups. Dès qu'on met un personnage un peu en situation où le lecteur peut le plaindre, en fait, ça marche pas mal.
Bastien, il est inspecteur du travail, c'est quelque chose d'assez important dans sa vie et c'est aussi assez important dans le roman. Je dis qu'il va bientôt enquêter sur une sale affaire, laquelle, Sophie Divry ?
Il est appelé parce qu'il y a un ouvrier qui est mort dans une compacteuse hydraulique. Donc la compacteuse est une grosse machine qui broie du carton pour en faire des espèces de balles, des cubes très très serrés. Donc une des premières scènes, c'est qu'il va sur place un soir dans une banlieue de Lyon pour assister à la sortie du corps de la compacteuse. Donc c'est pas une mort très très douce. On va s'apercevoir que le cadavre dedans n'est peut-être pas celui qu'on croit. Voilà. Mais le métier d'inspecteur du travail est très romanesque. Ça, une fois que j'avais choisi ce métier, c'était beaucoup plus simple pour s'y écrire sur Bastien. Parce que moi-même, je ne connaissais pas trop ce métier d'inspecteur du travail. Et je pense que beaucoup de Français ne connaissent pas, en fait, non plus trop ce métier. Du coup, il y a dans le livre le plaisir de raconter un travail que les gens ne connaissent pas trop.
Oui, dans sa voix d'ailleurs. Lui-même parle de ce que c'est que ce travail, quel sens ça a pour lui, qu'est-ce que ça veut dire d'inspecter le travail, qu'est-ce que ça veut dire d'être soucieux des conditions de travail, et ça donne aussi un cadre, on va dire, sociétal dont vous vous affranchissez très souvent, mais quand même c'est très présent. Pour ce qui est de Maya, elle est donc journaliste scientifique, elle aussi, elle va comme être prise dans une drôle d'affaire. Je ne sais pas si c'est une sale affaire, laquelle ?
Elle a un problème, c'est parce qu'elle perd toutes ses affaires, donc chaque fois qu'elle part faire un reportage avec un appareil photo ou un ordinateur, c'est un peu compliqué. Donc là, elle part à Genève, au CERN, parce qu'elle a une tante là-bas qui fait un travail sur le cristal scintillateur, c'est-à-dire une matière qui permet de traduire la lumière en information. Et donc, elle doit faire un article là-dessus. Mais en effet, sa tante après va la rappeler pour lui dire qu'elle a un gros problème. L'enquête scientifico-policière se met en place autour de ce cristal qui est plus méchant qu'on le pense. Sachant que c'est un vrai cristal à la base, le cristal scintillateur, ça existe vraiment. Mais à partir de là, j'ai on va dire, exagéré les effets.
D'où le histoire. Je disais que votre dédicace sur le roman, c'était histoire, point d'interrogation, fantastique, point d'interrogation, amour, point d'interrogation. En effet, les trois ingrédients sont posés. Dès le départ, vous ébauchez la question scientifique avec le CERN, Genève, ce cristal. On va écouter une question de Florine, une auditrice membre du Book Club qui a lu votre livre et qui vous interroge sur cet aspect très documenté de votre roman.
Bonjour le Book Club, bonjour Sophie Divry. J'ai lu votre livre que j'ai adoré, j'ai aimé beaucoup de choses, donc notamment le mélange de genres, la psychologie des personnages et surtout, en fait, la découverte de la recherche scientifique et cet aspect un peu plus précis que vous avez ici avec les cristaux, notamment. Vous aviez certains passages qui étaient vraiment très détaillés. Donc, par exemple, quand Victoire va voir Maya et qu'elle lui explique le principe de tomographie par émission de position, ou aussi quand Maya va à Genève et là, Victoire lui explique le coating des cristaux. Et donc, ce sont des sujets vraiment très pointus. Il faut être aguerri quand même, je trouve, pour pouvoir en parler. Et donc, je me demandais, pendant toute ma lecture, comment avez-vous fait pour documenter ce roman ? Est-ce que la science était une passion depuis longtemps ? Est-ce que vous en avez eu dans votre cursus ? Ou est-ce que vous avez aussi passé des entretiens ou lu des articles scientifiques, par exemple ? Voilà, je vous remercie.
Merci à vous, Florine. On a l'impression que vous êtes complètement plongée dans des pages à vous entendre. Sophie Divry, le côté documenté, scientifique, précis de votre roman vient d'où ?
Oui, je suis allée voir les gens au CERN. Enfin, j'ai réussi à voir une physicienne au CERN et puis aussi un physicien à Lyon 1, à la fac, pour cette histoire de cristal. Après, tout l'intérêt est de la documentation, il faut en faire, mais il faut pas en faire trop pour qu'en effet, pour le lecteur, ça semble hyper solide, documenté, mais sans que ce soit indigeste à la lecture. Parce que sinon, on peut vite se perdre et puis raconter des choses qui sont rentrées dans les détails. Donc, il faut donner un effet. Quand on parle de tomographie et émission de positrons, il faut donner un effet d'autorité dans le livre quand, d'un coup, la scientifique raconte des choses hyper compliquées à Maya, sans que pour le lecteur, ça soit indigeste. Mais du coup, il se sent assez dirigé. Le lecteur, pour faire confiance à la narration, en disant « Ouais, d'accord, moi, je pige pas trop, pas tout. »
Mais eux, ils ont l'air sérieux.
L'auteur, il sait, et du coup, je peux suivre, voilà. Et ça, c'est intéressant, en effet, d'arriver à faire la part. Et là, ce matériel, le cristal, qui fait partie du calorimètre électromagnétique du CMS dans l'accélérateur des particules.
Bah, vous voyez, là, par exemple, voilà. J'ai rien compris, mais
c'est
je
ça.
Vous crois. Voilà.
Du coup, en fait, je me suis dit, je vais faire un truc au CERN, mais il y a tellement de choses au CERN que c'est même pas la peine de rentrer dans le tuyau de 27 km pour faire accélérer les particules. C'est les plus grands frigos du monde, c'est des cathédrales englouties tellement c'est trois fois la tour Eiffel engloutie. Donc il y a tellement, n'importe quel détail en fait du CERN suffit à faire un roman entier. Donc finalement j'ai eu moins besoin de documentation que je pensais parce que ce petit cristal avait, rien que par son nom en fait, un potentiel romanesque assez important.
Oui, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, vous disiez, je le répète, je crois à la fiction, mais moi je crois pas trop au hasard en vous regardant, Sophie Divry, et je me dis qu'il y a bien quelque chose qui vous intéresse d'un point de vue littéraire dans cette histoire, c'est que ça vous sert à quelque chose ce cristal, de la même manière qu'on le verra tout à l'heure, que la grosse machine dans laquelle est englouti un corps, ça vous sert à quelque chose. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous racontez avec cette histoire de cristal scintillateur.
Alors, moi, je voulais raconter une histoire d'amour.
Elle tarde à arriver. Hein.
Bah, oui, non, mais s'ils s'embrassent à la deuxième page, ils se croisent, ils se ratent plusieurs fois avant que ça arrive. Mais tout le principe d'une histoire d'amour est de mettre des obstacles, mettre de la frustration pour que quand l'histoire d'amour se réalise ou essaye de s'épanouir, il y ait une épiphanie dans le cœur du lecteur qui dit « Ah, enfin, nous y sommes, quoi. » Voilà. Après, moi, je voulais vraiment m'amuser avec, dans ce bouquin-là. Moi, le défi que je me suis donné, c'est vraiment faire une narration, faire un roman, quoi. Comme quand j'avais 12 ans et que je lisais sous ma couverture avec ma lampe de poche pour pas que ma mère me voie, Jack London, pour savoir la suite, quoi. Ça, je voulais arriver à faire ça, faire même un gros livre, même s'il est beaucoup moins gros que je pensais au départ.
Bon, c'est 500 pages qu'on avale rapidement, mais quand même.
Oui, oui, tout à fait. Bon, mais c'est vrai, comme c'est un peu feuilletonnant parce qu'on passe d'un narrateur à l'autre, tout ça, à un moment donné, je pensais qu'on allait faire même deux volumes. Bon, heureusement, comme je suis journaliste de formation, j'ai appris à couper. Donc, ça fait que 500 pages. Mais c'était ça, le défi. Et ouais, vous dites, qu'est-ce que vous voulez raconter?
Non, à quoi ça vous sert? Mais surtout, vous vous dites, OK, je veux raconter une histoire d'amour et on va y venir. Je pense que la question de l'amour, elle est en effet au cœur du texte. Mais du coup, vous avez des outils. Et disons que ce cristal est scintillant, je me dis, je sais pas, ça... Ça sert à quelque chose d'un point de vue dramaturgique, d'un point de vue narratif, non?
Après, c'est un truc après lequel tout le monde court. Donc ça, c'est vachement pratique pour la narration. C'est-à-dire que le cristal est dangereux. Est-ce qu'on va tomber malade? Qui est malade? Est-ce qu'il va la personne qui est malade va mourir? Du coup, s'il meurt, l'amour, c'est difficile. Et puis après, du coup, le cristal, il faut aller le chercher. Bon, mais ça, c'est...
Ça fait du mouvement, quoi.
Voilà, ça fait du mouvement. Après, pourquoi un cristal? Pourquoi une compacteuse? Après, il y a sans doute des dimensions symboliques, mais là, dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Moi, je voulais faire un bouquin à la fois en roman d'amour, parce que j'en avais marre de faire des bouquins où les gens sont tout seuls, ou sur Mars, ou au fin fond du Lot, après la fin du monde. Et puis, il y a la base réaliste, donc sur les métiers, et au fond, ça, je ne m'attendais pas non plus trop à faire ça. Et il y a quelque chose de fantastique, parce que je voulais faire quelque chose de beaucoup plus fantastique à la base, mais en même temps, ça n'allait pas avec la base réaliste. Et tout ça, tendu par une histoire d'amour. Mais moi, je pense que la fiction, c'est comme... c'est comme un gâteau super bon, quoi. On peut mettre beaucoup de choses dedans, tant qu'on peut charger au maximum, en fait, ça passe. Parce que s'il y a une tension narrative, s'il y a une tension émotionnelle...
25 minutes, 200 degrés, et puis hop, c'est bon.
Le gâteau, c'est cuit.
C'est cuit. On va écouter la voix de la romancière Karine Gibel. Elle parle de construction, justement, et de travail à l'œuvre au moment de préparer le livre.
Je ne fais jamais de plan. C'est-à-dire que je commence sur un thème, une situation de départ... Et c'est l'énergie de l'écriture qui va finalement me permettre de construire mon histoire. Et parfois, j'ai besoin de plus de temps. Je me retrouve à un moment où je sens que je n'arriverai pas à finir correctement cette histoire. Je n'irai pas jusqu'au bout. Donc, je m'arrête, je passe à autre chose. Mais le livre en question reste dans ma tête. Donc, j'écris vraiment quand j'en ai envie. Je peux écrire 8 heures d'affilée comme je peux écrire 5 minutes dans la journée. Tout dépend vraiment de mon état, de l'inspiration du jour. Je travaille vraiment en grande complicité avec mon éditrice, mais en général, j'attends d'avoir terminé au moins un premier jet pour lui faire lire le manuscrit. Et là, après, on échange effectivement sur les personnages, sur tout le livre, le fond du livre, l'histoire. Mais c'est très rare que je la sollicite pendant l'écriture. Ça peut arriver parfois quand j'ai vraiment des gros doutes ou... Mais c'est assez rare. En général, on commence le travail en commun quand le premier jet est terminé.
On entend l'autrice, la romancière Catherine Gibel, surtout connue pour les romans policiers qu'elle publie. Sophie Divry, alors plein de choses, à la fois la question du plan, la question du livre qui reste dans la tête, la question des états d'écriture, la question du dialogue avec l'éditeur ou l'éditrice. Est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de votre atelier de travail? Comment ça marche?
Oui, alors ça dépend des bouquins, mais il y a quand même quelques régularités. Moi, je n'écris pas ou 8 heures ou 5 minutes. Là, j'ai mis 2 ans et demi d'écriture pour celui-là. J'écris tous les matins et tous les soirs, sauf du lundi au vendredi. Enfin, le vendredi après-midi, en général, je suis un peu fatiguée, donc je fais sauter cette séance-là.
Mais ça, c'est très régulier, vraiment. Vous avez une pratique d'écriture très régulière.
Oui, il faut, parce que même si il y a des plus ou moins bonnes journées, en fait, chaque journée apporte une pierre, même si on n'a rien écrit, c'est qu'on est face à une difficulté et sur laquelle le cerveau essaye de trouver une solution. Et puis le lendemain, on aura trouvé une autre solution si on a bloqué la veille. Après, pour les plans, celui-là, c'est vrai que c'était assez... assez marrant parce que c'est vraiment un bouquin très construit narrativement. Enfin, il y a quand même tous les codes, un peu d'exposition, péripéties, dénouement, montée. Il y a même un twist à un moment donné. Enfin, et finalement, je me demande. Enfin, c'est pas si difficile à faire une fois qu'on est dans la machine. Mais j'avais pas de plan en dehors de 2 ou 3 chapitres devant, ou par grosse partie, parce qu'il y a 5 ou 6 mouvements dans le livre que j'ai enlevé après, hein, pour enlever les structurations. Mais c'était un peu angoissant parce qu'à la moitié du livre, je les avais quand même tous mis dans une situation assez compliquée. Je savais où je voulais arriver. Mon éditeur était là, ouais, c'est super, on va savoir la fin de l'histoire. Et moi, je n'avais aucune ligne, quoi. Et je savais que tout était dans ma tête, mais qu'il n'y avait que moi qui pouvais l'écrire et que personne ne pouvait m'aider.
Alors, vous saviez quand même qu'ils allaient se retrouver, en tout cas que Maya et Bastien, puisque depuis tout à l'heure, vous dites que je voulais écrire une histoire d'amour, il fallait bien qu'à un moment donné, leur chemin se croise.
Oui, bien sûr, oui, mais comment, où, à quel moment, et puis comment, enfin, je ne sais pas, c'est très bête. Pourquoi ils se retrouvent dans une voiture ensemble? Est-ce qu'ils vont prendre le train? Qu'est-ce qui est le mieux? À quel moment ils vont se recroiser et finalement arriver à se voir, tout ça est très 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 arbitraire. Il n'y a pas en littérature, il n'y a pas le bon, le moins bon. Enfin, si, il y a, mais j'aurais pu écrire d'autres scènes qui auraient été bonnes aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est assez flippant. Il faut faire un choix et puis on le fait. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, moi je voyais les chapitres s'éclairer au fur et à mesure, comme dans un tunnel avec une lampe de poche. On voit en fait où on est en avançant. Mais ça demande quand même. Une certaine confiance en soi.
Vous dites
confiance en l'avenir. Pouvez-vous dire, je vais y arriver, je vais y arriver, je vois le bout. Mais par contre, je ne sais pas du tout par où ça va passer. Mais au fur et à mesure, je vais voir que là, il faut prendre la droite, là, il faut prendre la gauche. Et puis, et au final, j'y suis arrivée. Mais,
on entendait dans l'archive Karine Gebel parler des échanges avec son éditrice, auditeur, je ne sais pas. Et puis vous dites, j'échange avec mon éditeur qui avait envie de savoir la fin. Est-ce que vous attendez d'avoir donc pas tout écrit, vous envoyez un peu au milieu?
Non, moi, comme elle disait, j'envoie quand j'ai un premier jet. J'envoie. Sinon, avant, c'est trop perturbant parce qu'il y a les attentes, il y a les remarques. Donc, il faut. J'ai l'habitude de dire, mais c'est un peu. C'est là qu'on voit qu'on a vieilli. C'est un peu comme si on ouvrait l'appareil photo et que du coup, pendant qu'on est.
Ça a exposé la pellicule.
Voilà, c'est ça. Du temps où il y avait une pellicule, on se comprend.
Je suis vieille comme vous, hein, voilà. Manifestement. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé pour l'instant en termes de structure. On a parlé de l'alternance, mais on n'a pas parlé des pronoms que vous utilisez, Sophie Divry. Oui. Il se trouve que la partie de Bastien est écrite depuis le je et la partie de Maya est écrite avec un elle. Oui. C'est un choix qui me paraît non négligeable. Il raconte quoi ?
Il raconte que j'ai eu plus de facilité à rentrer dans la tête de Bastien, sans doute, et que je voulais aussi une variété, un peu comme au piano, on veut faire du forte, du piano, où il y a un mode majeur, un mode mineur, je trouve que ça donne une variété à la lecture. Et puis très bêtement, quand on ouvre le livre, on sait où est-ce qu'on est tout de suite. Mmh. Ensuite, Maya, elle a quelque chose d'un peu plus dur, un peu plus... c'est elle qui se protège de l'amour beaucoup. Et donc du coup, la mettre à la troisième personne permettait aussi de même si on est dans sa tête. Hein, on peut très bien être dans la tête de quelqu'un en écrivant, tout en écrivant en elle ou en il. Ça c'est.
Mais ça éloigne un petit peu.
Ça permet de l'éloigner un petit peu, tout à fait.
En exergue de ce roman, il y a le bien et le mal, on va dire. Il y a la violence et l'amour. Il y a 2 choix comme ça qui peuvent régir le monde et qui sont tous les deux présents dans ce texte. On va commencer par le mal.
Comment avais-je fini par ressortir de la compacteuse, je ne m'en souvins que plus tard. J'avais entendu du bruit, peut-être un service de nettoyage, j'avais eu peur d'être vue et j'étais parvenue à me traîner jusqu'à ma voiture. Je me revois, tétanisée par le froid, faisant tourner le moteur sans pouvoir bouger. Je me revois sous une douche chaude. Le lendemain, j'étais incapable de sortir du lit. Je restais enfermée chez moi, j'avais l'impression d'avoir avalé une bouteille de fiel. J'étais devenue un ver de terre, un déchet. Des souvenirs refoulés me remontaient à tout instant. Quelque chose cognait contre la paroi de mon angoisse avec une force qui me dépassait. J'étais nulle, ma vie était une erreur. Je ressassais la cruauté de mes parents à mon égard, les coups, les mots. Je me rappelais ce soir où, collégien, j'avais surgi dans le salon en m'écriant « Je suis arrivée premier de ma classe aux 100 mètres !» Ma mère était en train de nettoyer l'argenterie avec sa cousine. Elle m'avait répondu du tac au tac. Tu seras toujours premier sur le podium des imbéciles. J'avais ravalé mes larmes jusque dans ma chambre. Une mère normale aurait répondu autrement. Je le savais. Mais il n'y avait jamais d'autre mère.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
un book club qui met à son programme Fantastique Histoire d'amour, le roman que vous faites paraître, Sophie Divry, aux éditions du Seuil en cette rentrée littéraire. J'ai choisi ce début de chapitre lu par Jeanne Aléos où Bastien se retrouve dans cette grosse machine, la compacteuse. On a dit tout à l'heure que cette grosse machine était responsable de la mort de quelqu'un. On ne sait pas tout à fait qui. En tout cas, l'identité du cadavre nous sera révélée plus tard. Il me semble qu'il y a quelque chose dans cette compacteuse qui est vraiment la matrice de la violence. Hein, vraiment l'idée que ils sont dans la machine, qu'ils y crèvent ou qu'ils y retournent obstinément. Et Bastien, vous disiez tout à l'heure que vous l'avez chargé d'une enfance très maltraitée où, à l'origine, il y a la violence. Qu'est-ce qui existait comme ça, comme trame du mal? On l'entend ici, c'est le mal, c'est la violence, mais c'est aussi la cruauté, comme s'il y avait comme ça, sous la fantastique histoire d'amour, cette chose-là.
Oui, je pense qu'après, ce sont des problématiques littéraires du combat du bien contre le mal. Je pense à un livre qui s'appelle Carou, de Steve Tejik, où au moins, il y a toute la littérature russophone qui est là-dessus. Aussi, j'ai beaucoup aimé un auteur comme Hubert Selby, notamment Le Démon. Hubert Selby, il est très connu pour Last Exit to Brooklyn. Mais Le Démon, ça parle des classes moyennes, ça parle pas du peine prolétariat à Brooklyn. Et ça avait beaucoup moins passé quand c'est sorti aux États-Unis dans les années 60. C'est l'histoire d'un obsédé sexuel qui monte dans la hiérarchie de son entreprise. Et plus il monte, plus son désir sexuel et de destruction, de prédation s'accroît. Donc c'est un peu une métaphore du capitalisme. Mais moi, tous les bouquins où il y a des combats, au fond, sur ce qui est plus ou moins bien et ce qui est plus ou moins mal, je trouve que ça donne une dimension au livre supérieure à juste une histoire, une narration, même une histoire d'amour.
Mais il y a aussi toute la...
Et donc, la compacteuse, je pense qu'elle m'est apparue, parce que je me suis renseignée aussi, pour répondre à votre lectrice aussi de tout à l'heure, sur l'inspection du travail. Et donc ça, c'est un vrai truc, un vrai accident du travail mortel, un ATM, comme on dit, qu'a vécu un inspecteur du travail de mes amis. Et en effet, c'était assez brutal quand même comme scène. Et du coup, et après, la compacteuse a pris une importance dans le bouquin, où en effet, je pense qu'on peut tous y mettre quelque chose, mais moi-même, je sais pas trop.
Dans ce chapitre-là, il y a quand même quelque chose de la mère. Enfin, c'est très matriciel quand même. Il rentre dans la machine, il est dans cette machine qui broie, qui est capable de tuer des individus. Et le souvenir qui lui remonte, c'est la mère cruelle et c'est les parents qui le battent avant d'aller messe. Il y a quand même quelque chose qui est, en tout cas, sinon la mère, on va dire l'origine de la violence. Pour moi, c'est vraiment le lieu du mal, la machine.
Oui, mais là-dessus, ouais, je vous laisse, Marie Richeux, à votre propre interprétation.
Parce que
cette histoire,
cette
histoire de maltraitance, c'est très, très, très légère dans le livre.
Elle n'est pas légère.
Vous l'avez très légèrement défait un effet de mon livre, merci beaucoup, qui est un effet de surprise à ce moment-là. Mais une autre fois, un de vos collègues m'a dit que c'était le patronat, le mal, tout ça. Moi, je pense que la compacteuse est un peu le truc qui nous fait mal, la présence du mal aussi en soi, c'est-à-dire que en face de l'amour, il y a la pulsion de destruction. Le mal, la matrice, la famille peut être un lieu d'abominable violence, évidemment.
C'est le cas quand même dans le roman.
Mais il y a en nous aussi une angoisse, une destruction. Donc en fait, je pense que j'ai un peu tout mis dedans, voilà, comme dans mon gâteau super bon. Et après, je pense que malheureusement, chacun des lecteurs, lectrices va y voir ce qu'il veut y voir. Donc je vous laisse à votre propre interprétation.
La part la plus vraie de l'existence, la plus intense, gît dans l'ombre comme un fauve tapis dans les buissons. Je disais qu'il y avait deux citations en exergue du livre. Oui. Celle-ci, c'est Robert Alexis Le Majestic. Je vais m'empresser de dire celle d'après, mais peut-être un petit mot sur cette citation-là, Sophie Divry.
Oui, Robert Alexis est un auteur de La Robe et du Majestic, notamment, qui est à Lyon et qui est assez méconnu, malheureusement, qui a quelque chose de très magnétique dans son écriture, sur le trouble dans le genre, mais aussi le trouble par rapport à la moralité. Et ça, je trouve ça très important, même si on est moins invité dans les écoles, qu'on s'appelle Robert Alexis, qui est publié au Tripode et à José Corti. Et donc, j'ai mis cette phrase pour après la mettre en lumière par rapport à la seconde.
Je l'ai dit ?
Oui, allez-y.
La deuxième phrase, moi, je devrais pas rire, mais c'est une citation du pape François qui dit « Cependant, je veux insister sur le fait que l'amour est plus fort ».
Oui, alors j'ai dû un petit peu me secouer pour mettre une phrase du pape en exergue de mon livre. C'est quand même pas hyper vendeur à la base. L'amour est plus fort. Alors, c'est un tout petit peu une manière de dire au lecteur, vous inquiétez pas, ça va bien se passer aussi. Et tout là est le combat. Est-ce que l'amour est plus fort? Moi, j'ai écrit ce livre aussi par réaction au confinement, aux années Covid, où on était quand même très dans le sans-contact, voire dans la méfiance permanente envers le corps de l'autre, envers la société. Et j'avais besoin aussi de croire profondément que l'amour est plus fort et aussi qu'on peut retrouver la vie, quoi. Donc j'avais envie de faire un livre où il y a l'amour, mais il y a aussi des scènes de fête, il y a aussi plein de personnages secondaires, des familles, des rencontres. Et du coup, j'ai trouvé, en lisant le François, j'ai trouvé cette phrase, en fait, de cette simplicité premier degré qu'on les claire, quoi, de dire, non, l'amour est plus fort et il n'y a pas de cynisme derrière, en fait.
D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que vous aviez hésité avant d'en faire un catholique, Sébastien, inspecteur du travail. Qu'est-ce que ça apporte, selon vous, la dimension religieuse? On l'entend, en fait, plus ça va, plus vous racontez combien ce roman, il est agité par le combat de deux forces, quoi. Enfin, vraiment, celle du mal et celle du bien qui serait celle de l'amour. Le fait de lever ça avec une dimension sacrée et religieuse, ça apporte quoi pour vous?
Alors déjà, je pense que comme il n'y a tellement pas de personnages qui sont catholiques dans la littérature française contemporaine, ça fait un petit peu truc d'originalité qui est toujours bon à prendre dans... concurrentiellement, je vais dire. Deuxièmement, il y a un effet aussi de... Moi-même, je sentais que si je le faisais pas, cette fois-ci, il y avait un effet d'autocensure. En gros, c'est pas cool, c'est pas sexy de voir des personnages qui vont à la messe. Et je sentais que du coup, j'allais ne pas le faire pour des mauvaises raisons. Ensuite, comme il est assez désabusé, misanthrope, ça, le fait qu'il croit quand même que le Christ est ressuscité et qu'il aille à l'église, ça le fait... Ça lui donne une partie de quelque chose qui le tire vers le haut. Il essaye quand même en lui-même de penser que quelque part, il faut s'aimer les uns les autres. Voilà. Sinon, on aurait un personnage qui serait vraiment hyper sombre et moi, je ne serais pas tombée amoureuse de lui. Alors que, bon, si j'ai écrit ce livre, c'est que je suis aussi un peu amoureuse de lui. Sinon, j'aurais pas réussi à transférer psychiquement sur mon personnage masculin pour réussir à le faire. Et en plus, ça permet... Après, je pense qu'au fond... Comme je parlais d'amour, même si j'ai pas de théorie sur l'amour, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de définition.
C'est quand même dommage là. C'est quand même bien décevant.
Je vais être bien déçue.
Franchement, à 15h42 sur France Culture au mois de janvier, j'aurais quand même bien aimé.
Voilà. Donc il y a des gens qui parlent d'amour dans mon bouquin et à un moment donné, c'est vrai que peut-être au fond qu'il y ait au début du livre, parce que ça s'efface assez vite, hein, il y a pas grand-chose quand même sur le catholicisme, il y a quand même un curé qui parle avec Bastien et la question de l'amour de Dieu, et au fond, quand même, quand on parle d'amour, l'amour de Dieu est un gros morceau, donc au moins comme ça je l'aurais traité. Mais puis après, moi je pense que sociétalement, je suis plutôt content d'avoir fait un personnage qui va à la messe sans que ça soit le sujet du livre en fait. En fait, la religion a une place, mais elle a une place tout à fait circonscrite dans nos vies.
Oui, comme vous disiez, elle est assez abandonnée, cette dimension religieuse, je dirais, au profit, je dirais que la ressuscitation du Christ est abandonnée au profit du réel de la rencontre amoureuse avec Maya.
Disons qu'il y a beaucoup de choses au fur et à mesure qui sont abandonnées, le cadre des métiers, inspecteur, journaliste, Lyon, tout ça, au fur et à mesure, le livre, il va vers Genève, vers même au-delà des frontières encore, et les personnages sont de plus en plus disponibles, ils travaillent de moins en moins pour être disponibles à l'histoire d'amour.
Parce qu'il est plus facile de passer des frontières que d'avouer ses sentiments, c'est ça?
C'est ça, c'est cette phrase.
L'idée qu'on se quitte m'était insupportable, alors je dis à tout hasard « Venez frapper à nouveau chez moi quand vous voulez, j'y serai cette fois. » Je lui donnais le code de l'immeuble, j'étais désespérée. Elle cligna des yeux et je sentis qu'elle l'avait enregistré dans sa mémoire. « D'accord, faisons ainsi. » Elle disait peut-être ça pour se débarrasser de moi. « Vous viendrez ?»« Oui, mais je ne sais pas quand. » »« Ce n'est pas grave, je vous attendrai. » »« Vraiment ?» dit-elle d'un ton triste. Soudain, elle eut l'air d'une enfant qui a peur que les adultes lui mentent ou disparaissent. Son visage à la fois pâle et mat était levé vers moi. J'eus très envie de lui caresser la joue. « Je vous attendrai. » Elle me sourit. Peut-être que je lui inspirais de la pitié, une pitié douce, un attendrissement. À mon tour, j'eus l'impression d'être cet enfant, ayant peur de faire confiance à l'autre. Peur d'être trahi ou d'être broyé par une force contre laquelle il ne peut rien. « Alors au revoir, Maya. » « Au revoir, Bastien. » C'est en la regardant partir que je me rendis compte que j'étais amoureux. Il était difficile d'appeler ça de l'amour, mais ça y ressemblait. D'innombrables cordelettes étaient sorties de moi pour aller s'accrocher à sa silhouette qui s'éloignait sur son vélo. Je restais, les bras ballants, ne sachant pas quoi faire de cette émotion que je ressentais. Je m'assis sur un banc, soufflais entre mes doigts pour me réchauffer et fixais d'un œil vide l'île au centre du lac. Des oiseaux blancs s'y rassemblaient et j'aurais voulu lui demander leur nom. Le son de sa voix ne me quittait pas quand elle m'avait dit « J'étais chez vous avant-hier ». J'observais un instant les oiseaux, puis je sortis du parc, tout plein d'ailes.
Est-ce que c'est facile à écrire des scènes d'histoire d'amour, Sophie Divry ?
Oui, c'est pas le plus difficile à écrire. La rencontre, notamment quand ils se parlent enfin, c'est plutôt agréable une fois que tout est en place, que les personnages sont bien habités par leur propre histoire. De façon, le plus difficile à écrire, c'est des scènes de sexe.
Ça, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'était ma prochaine question.
Ça, c'est très difficile. Ouais. Même si là,
qu'est-ce qui est difficile ? Il y en a deux ou trois ?
Oui.
Qui sont quand même assez longues. Enfin, disons que vous ne reculez pas devant la difficulté.
Oui, non, je fais pas un plan
de coupe.
Ouais, le plan de coupe, oui, où on retrouve la femme avec
un drap au-dessus de la poitrine.
Voilà, tout à fait. Non, c'est difficile, mais c'est très technique. Hein. Je sais pas si c'est très intéressant, mais...
Si, je crois que c'est intéressant.
Ah oui, parce qu'il faut dire ce qui se passe quand même, comment ils se touchent, comment ils font l'amour, pour pas faire cette coupe elliptique pudibonde, mais où on dit les choses un petit peu de manière vulgaire, en mettant verge, vagin, choses comme ça, et là ça fait Houellebecq, c'est abominable, où on dit étreinte, océan, et là c'est ridicule. Voilà, donc il faut trouver... Je riais, mais c'est vrai. En fait, il faut trouver le bon mot et rester et puis raconter quelque chose quand on raconte un contact physique qui continue à être en fait dans l'histoire, dans le roman. Voilà, qui dit quelque chose du roman, qui dit quelque chose et pas juste le faire parce qu'il faut le faire physiquement. Voilà. Mais après, moi, sur l'histoire d'amour, en fait, la difficulté pour moi, ça a été d'écrire une histoire d'amour entre un homme et une femme. C'est une histoire hétérosexuelle classique, mais sans que ça soit chargé de clichés. Et ça, donc, je voulais pas écrire quelque chose style hyper féministe ou réinventer quelque chose. C'était, j'avais déjà assez de choses dans mon gâteau super bon, mais je voulais quand même pas me plonger dans des clichés qui sont faciles. C'est l'homme plus riche qui sauve la femme qui a tellement besoin d'être sauvée.
Ils ont tous les deux, de toute façon, ils ont beaucoup besoin d'être sauvés l'un et l'autre. Ils ont très peur quand même l'un et l'autre.
En fait, je voulais quelque chose qui soit équitable. Et donc, j'ai un souci que j'ai eu pour pas que, je sais pas, vraiment, j'aurais mis la même taille et naturelle. Enfin, mais où. J'ai fait que ce soit les hommes qui parlent d'amour et les femmes quand elles parlent d'amour sans que ce soit un truc de pipelette. Enfin, j'ai gardé dans ma tête le souci de pas rajouter des clichés, faut pas remettre une pièce dans la romantisation de la domination masculine ou mais du coup ça c'est pas si évident vu qu'on pour mettre des obstacles aussi style des obstacles trop classiques, des histoires d'amour ridicules, voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on est frustré, qu'il faut attendre un petit peu, parce qu'il y a quand même des obstacles, mais qui ne sont pas l'ordre, en effet, de choses trop bateaux, j'espère.
J'ai commencé l'émission en parlant du bruit de la présence humaine. La phrase exacte étant « le doux bruit de la présence humaine », et c'est un chat, à la fin du roman, qui entend ce doux bruit de la présence humaine. Et il m'a semblé que tout l'enjeu pour ces deux êtres-là, c'était d'être en mesure de l'entendre, c'était en mesure d'être l'un à côté de l'autre, de se retrouver. À un moment donné, une amie dit à Maya que le plus grand danger qu'elle court, c'est de ne pas aimer.
Oui, ce qui est une phrase du pape aussi.
Mais ça fait super pape François.
Voilà. Ah, ouais, tout à fait, mais bon, j'ai mis dans un personnage athée, parce qu'heureusement, il n'y a pas que les religieux quand même, le monopole de l'amour. Oui, du coup, j'ai quand même oublié votre question.
Qui en était...
Ah oui, la présence humaine.
Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, le plus grand danger, si on devait, tout à l'heure, vous disiez parfois dans mes livres, je mets une sorte de morale à la fin, ce serait ça. Ce serait que le plus grand danger, ce serait de ne pas être en mesure d'entendre le doux bruit de la présence humaine.
Oui, c'est là que je pense qu'on retrouve le traumatisme confinement de mon bouquin. C'est Après, je pense qu'au fond, profondément, je pense que je suis profondément humaniste, tout simplement. Et que après tout ce qui se passe dans ce livre, il y a quand même bon, ben voilà, un policier, un magistrat, une banquière, un libraire, un chat, des oiseaux. On va ici, on va là. Au fond, tout ça est la grande comédie humaine, de la vie humaine en fait. Et nous, les romanciers, on est là pour parler de la vie humaine, dire qu'est-ce que c'est que la vie, comment les gens peuvent s'aimer. Et au fond, moi, ça me touche. Je crois que la société me touche là. Et la question, oui, du coup, c'est que si on est un chat et qu'on entend les êtres humains parler, au fond, peut-être que c'est doux d'entendre une voix humaine quand on est un chat.
Restez avec nous dans le Book Club, Sophie Divry.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Car à cette heure-ci, le mardi, nous avons rendez-vous avec Lou Quevauvillier. Bonjour Lou.
Bonjour Marie.
Vous êtes au carrefour, j'adore dire ça, j'adore vous imaginer sur un grand carrefour, tous les mardis je répète ça, mais au carrefour des enjeux du numérique et de la littérature. Cette semaine, vous avez participé à un atelier Wikisource dans une librairie et vous venez nous raconter.
Oui, je suis allée à la librairie Violette & Co qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris. C'est une librairie féministe historique qui avait dû fermer ses portes en 2021 mais qui a été reprise il y a quelques mois par un collectif de jeunes libraires. Dans ce nouveau lieu, il y a évidemment un espace librairie mais il y a aussi un endroit qui reste disponible au sous-sol pour que des associations puissent s'y retrouver et y organiser des événements. Samedi dernier, l'espace était occupé par l'association Deuxième Texte qui est une association qui milite auprès des professeurs pour donner toute leur place aux femmes de lettres dans le canon littéraire tel qu'il est enseigné en France. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres que l'association fait circuler sur le nombre de femmes dans les programmes scolaires, c'est pas terrible. Il y a par exemple moins de 10% de textes d'autrices qui sont étudiés au programme du bac de français ou de l'agrégation sur ces 10 dernières années, ou encore deux fois moins de thèses en littérature écrites sur des autrices que sur des auteurs. Alors pour faire davantage connaître les écrits d'autrices et les faire voyager dans les salles de classe ou sur les bancs de l'université, l'association Deuxième Texte organise des événements tout au long de l'année et parmi eux un éditathon, autrement dit un marathon d'édition Wikisource à la librairie Violette & Co. Le principe est simple, chacun, chacune arrive avec son ordinateur et numérise dans les règles de l'art des ouvrages d'autrices sur Wikisource pour qu'ils soient disponibles sous forme de livres électroniques à télécharger sur la plateforme. Évidemment, les textes en question sont libres de droit, souvent parce qu'ils sont suffisamment anciens pour ne pas rencontrer de problème de droit d'auteur.
Alors on tend l'oreille à Wiki, parce qu'on connaît bien Wikipédia, on connaît un peu moins bien Wikisource. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est, Lou ?
Oui, en fait, on a tendance à ignorer que la galaxie Wikimedia ne s'arrête pas à Wikipédia et Wikisource, comme tant d'autres, en fait partie. Wikisource, c'est une bibliothèque de textes accessible gratuitement dans leur intégralité. Ce sont des centaines de milliers d'œuvres qui sont mises en ligne sous la forme de livres électroniques selon une charte rigoureuse. Les contributeurs et les contributrices de la plateforme envisagent Wikisource comme une bibliothèque commune, une bibliothèque dont on serait tous et toutes responsables. Et si tout le monde à la main sur ce qui peut y être publié, alors il y a un intérêt évident à s'impliquer dans le processus d'édition numérique des textes et ces marathons d'écriture permettent de sensibiliser à cette pratique. Chez Violette & Co, l'association Deuxième Texte propose des ateliers uniquement autour de textes d'autrices. Samedi dernier, il y avait plein de textes à éditer. Nous, par exemple, avec la personne qui était assise à côté de moi, on a travaillé sur L'échalote et ses amants de Jeanne Landre, une autrice et journaliste du 19e siècle peu connue. Et forcément, ces éditathons sont l'occasion de découvrir des textes et des autrices.
Oui, puis j'imagine de parler entre vous. Là, c'est l'association qui est arrivée avec des textes à numériser à disposition. Mais où est-ce qu'elle les trouve, ces textes-là ?
Comme je le disais, ce sont des textes qui sont entrés dans le domaine public ou qui sont libres de droit. On les trouve la plupart du temps sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF. Le problème avec ces textes récupérés, c'est qu'il s'agit de scans de livres, donc ils ne sont pas très accessibles. Le travail d'édition sur Wikisource consiste donc à reprendre ces scans, à s'appuyer sur un logiciel de reconnaissance de textes imprimés et de relire, corriger les coquilles et garder au maximum la mise en page des textes d'origine pour fabriquer des versions électroniques des livres. Parfois, ça demande quelques compétences en codage informatique, mais rien de bien méchant et ces marathons d'édition permettent d'acquérir les principales notions.
Alors, quel est l'avantage d'un livre électronique ? Pourquoi le scan du livre ne suffit pas puisqu'on peut le trouver sur Gallica ?
un livre électronique, on peut dire aussi un livre numérique, ça permet de pouvoir être lu sur n'importe quel type d'écran. Il peut s'agir d'une tablette, par exemple, ou d'un vidéoprojecteur en classe. Et puis, un livre électronique, c'est beaucoup plus léger qu'un livre scanné. Mmh. Les images pèsent plus lourd que du texte, donc ça permet de les faire circuler par une simple pièce jointe dans un mail, par exemple. Enfin, le format numérique permet de pouvoir extraire des passages de texte ou de faire des recherches par occurrence. Et dans un cadre pédagogique ou de recherche universitaire, c'est plutôt une fonction indispensable.
C'est génial. Le collectif Deuxième Texte n'est pas le seul à militer pour que les femmes soient davantage représentées dans la galaxie Wikimedia. Qui d'autre ?
Oui, vous connaissez peut-être le collectif des 100 pages qui existe depuis plus longtemps que le Deuxième Texte et qui s'attelle à produire énormément de biographies de femmes et de minorités de genre sur Wikipédia. Chez Violette & Co, vous pouvez un samedi par mois passer la matinée avec le Deuxième Texte et l'après-midi avec les 100 pages. Vous pouvez aussi suivre ces ateliers à distance. Je mettrai toutes les informations sur la page internet de la chronique.
C'est toujours passionnant. Merci beaucoup, Lou Quevauvillier. Lecture numérique à réécouter sur franceculture.fr. Est-ce qu'il y a beaucoup de musique dans votre livre, Sophie Divry ?
Pas énormément.
Non, je crois qu'il y a plus de cuisine et, et des oiseaux que de musique. Ouais. Mmh.
Parce que nous sommes attentifs à ça. Tous les jours, nous avons un grand jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales et nous invitons nos auditeurs et auditrices à trouver l'évocation des airs musicaux dans les livres, n'importe lesquels, qu'ils lisent et donc qu'ils nous les envoient. Aujourd'hui, c'est Jean-Marc qui joue avec nous via le mail du Book Club et il a choisi un extrait d'un texte qui s'appelle « Au fin fond de décembre » de Patrick Conrad, paru aux éditions Actes Sud en 2023. On nous dit que c'est un polar à l'humour tranchant. Lorsque la bouteille de vin fut vide et les bougies à moitié consumées, Martha débarrassa la table et mit un disque d'Harry Belafonte pour l'ambiance. Martha posa sa tête sur les genoux de Théo et dit « Écoute, c'est mon titre préféré. Deep in December, it's nice to remember », fredonna-t-elle. Il me file la chair de poule à tous les coups. Ils ne prononcèrent pas un mot pendant la chanson. Elle, parce qu'elle rêvassait les yeux fermés, muette d'émotion, et lui, parce que c'était la deuxième fois de la journée qu'ils entendaient cette balade. Une balade qu'ils n'avaient pas écoutée depuis 20 ans, et on commencerait à douter de la coïncidence pour moins que ça. T'as dû voir plein de gens morts pendant ta carrière, pas vrai ? Je ne les ai jamais comptés, mais il y en a eu beaucoup. Pourquoi cette question macabre ? Parce que pendant que le chanteur chantait, me demande pas pourquoi, d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais jamais vu de macabée mort. Un macabée mort. Il n'y avait que Martha pour sortir des choses pareilles. Et dire qu'elle était incapable de retenir jusqu'au nom de Belafonte.
Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and grain was yellow. Try to remember the kind of September when you were a young and callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow, follow. Try to remember when life was so tender.
Merci beaucoup Sophie Divry.
Merci et bon anniversaire Laurent.
Pourquoi ? Ah bah bon anniversaire ça. Laurent. Bah ouais, bah bien sûr, fantastique histoire d'amour à Paris aux éditions du Seuil. J'étais perturbée, je me suis dit mais c'est qui ? Mais j'ai pas besoin de savoir tous les secrets. Au son c'était Alexandre Dang, joyeux anniversaire Laurent. Et à la réalisation Colin Gruel, très joyeux anniversaire Laurent. On vous embrasse. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Jeanne Léo, Soriane Delacroix, Mathilde Wagman, Léa Weiss-Grus, Didier Pinault, Marianne Chassor, Alexandra Lajbegovic. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr et pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France.